Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Selon son auteur, cet ouvrage risque de ne cocher aucune des cases littéraires classiques. Il écarte le qualificatif d'essai, car la fiction, la spéculation et l'imagination y tiennent une place de choix. Mais la vraisemblance omniprésente, de manière toujours troublante, pourrait le rapprocher d'une thèse, d'une démonstration, et écarter malheureusement le qualificatif de dystopie. Même s'il le réfute, on peut y trouver également une biographie. Certes, ce n'est pas non plus un traité scientifique, même s'il y a de nombreuses données chiffrées. Finalement, cela risque de ne pas être de la science-fiction, et c'est bien cela qui nous inquiète. Mais de quoi s'agit-il dans cet ouvrage hybride? Si vous souhaitez le savoir, restez avec nous et Xavier Bardet vous dit tout sur son livre « Journal d'un enfant du siècle » paru aux éditions Le Lys Bleu en 2024. Bonjour Xavier Bardet, merci d'avoir accepté l'invitation de Parole d'auteur.
Bonjour Philippe, merci de m'avoir invité.
Nous allons donc parler ensemble de votre dernier ouvrage qui est paru en 2024 au Lys Bleu, Journal d'un enfant du siècle. Alors après cette introduction, certainement que les auditeurs doivent se poser des questions. Comment d'un mot pourriez-vous qualifier, j'allais dire, la case à cocher pour qualifier justement votre ouvrage ?
Alors comme vous l'avez très bien expliqué au début, c'est un peu complexe, hein, C'est un ouvrage que je qualifierais et que les lecteurs qualifient en général d'assez hybride. Alors on peut y voir une saga familiale, dans la mesure où on se promène dans le 21e siècle sur quatre générations. On peut y voir une fiction, parce qu'évidemment les personnages n'existent pas, enfin sont imaginaires. On peut y voir aussi une sorte de roman d'anticipation, dans la mesure où tout ce qui est présenté d'abord concerne le futur, et puis surtout essaye de s'appuyer sur des données chiffrées. Voilà. J'ai une formation scientifique au départ, donc j'essaye toujours de raconter des choses plausibles au moins.
Voilà. Alors sur votre formation scientifique, on va y revenir assez rapidement. Effectivement, moi je cocherais plutôt la case roman d'anticipation pour le définir au niveau global, puisqu'effectivement vous traitez beaucoup de ce qui va se passer à l'avenir. Et vous avez d'ailleurs des épigraphes dans votre livre. Vous en avez deux qui m'ont bien plu. La première de Pierre Dac, « Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Et si tous ceux qui croient avoir raison n'avaient pas tort, la vérité ne serait pas loin. » Alors, au vu de ces épitaphes et au vu de la nature d'anticipation de ce roman, on voit que vous avez pris un certain nombre d'options, que vous avez des visions qui sont des visions construites par rapport à l'avenir. Ma première question, ce serait de dire, est-ce que voir venir, c'est un privilège ou c'est plutôt finalement une source d'inquiétude ?
Alors, on peut le voir comme une source d'inquiétude quand on comprend un peu la trajectoire que le monde prend. C'est pas une dystopie complète dans la mesure où il y a quand même des solutions, il y a des propositions pour essayer de s'en sortir, pour vivre mieux et surtout pour gérer ce qui nous arrive. Alors le fil rouge quand même, c'est l'aspect écologique hein, de ce roman, avec évidemment le réchauffement climatique, puisque un des chiffres qui parcourt le livre, c'est la tenue en CO2 de l'atmosphère. On peut dire que c'est une forme de dystopie en essayant de s'appuyer sur le début de trajectoire du 21e siècle.
D'accord. Alors, vous n'en êtes pas à votre premier ouvrage. Vous avez déjà produit un roman en 2018 qui s'appelait « La deuxième maison, la première brûle et nous regardons ailleurs ». Et en 2021, vous avez commis un essai qui s'intitule « Le salaire de la terre, une double monnaie au service de la transition écologique ». Donc, vous vous êtes plutôt spécialisé dans un certain domaine, l'évolution climatique, le dérèglement climatique, et surtout le constat global que on a beau alerter à droite, à gauche, en haut et en bas, il n'y a rien qui ne se passe.
Oui, effectivement. Alors, la genèse de ma démarche et de mon envie d'écrire, c'est suite à des conversations avec des amis du GIEC, donc le groupement interdisciplinaire de l'étude des climats, qui était un peu désespéré. Donc là, ça remonte aux années de 2010-2015. Ils étaient désespérés, ils sont toujours assez désespérés de ce qui se passe et du peu d'impact que leurs nombreux rapports ont sur la marche du monde, les politiques et les gens en général. Et de ce constat est née l'idée que peut-être une fiction qui montrerait justement toutes les conséquences de ce qu'on est en train de vivre en termes climatiques pourrait toucher plus profondément les gens et avoir plus d'impact. Donc ça, c'est le point de départ de ma démarche d'écriture. Avec
D'accord.
effectivement le premier roman en 2018, Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, la deuxième maison, qui est finalement la suite, paradoxalement, du deuxième roman, celui dont vous avez parlé au début, Le journal d'un enfant du siècle.
D'accord.
Puisque la deuxième maison se passe directement dans les années 2080, et c'est l'arrière-petite-fille, du personnage principal du journal d'un enfant du siècle qui, est le personnage de mon premier roman.
Alors, avant d'attaquer plus précisément donc ce roman, je voudrais préciser aux éditeurs votre formation et la carrière que vous avez faite. Donc, vous êtes ingénieur de l'École centrale de Paris et vous avez fait une carrière dans l'aéronautique en Europe et aux États-Unis.
C'est
Et
ça.
actuellement, vous avez bifurqué dans une autre direction, laquelle?
Oui, alors comme pas mal de gens, l'époque, l'épisode Covid en 2020 a profondément changé mon existence. Et là, j'ai décidé de quitter l'industrie. Alors non pas que je m'y sentais mal ou que je l'ai mal vécu, hein, c'était une période passionnante, surtout l'industrie aéronautique. Mais j'ai eu envie de changer de vie, de me rapprocher de mes valeurs, de la nature et du travail manuel aussi, parce que j'aime bien le travail manuel. Je suis un peu un manuel refoulé, si on peut dire. Et donc, j'ai ouvert une menuiserie apicole dans les Pyrénées-Orientales, pas très loin de Toulouse, mais loin de la ville. Et je me suis lancé dans la menuiserie tout en continuant l'écriture.
Et alors donc, j'ai cru comprendre que au-delà de la menuiserie, vous fabriquiez des ruchiers.
C'est ça. En fait, mon activité de menuiserie est principalement axée sur l'apiculture, donc la fabrication de ruches. Et des ruches plutôt originales d'ailleurs.
D'accord. Alors, je vous propose que nous revenions donc au roman. Alors, on comprend la situation, la position de ce roman par rapport à ce que vous aviez déjà écrit. Le déclic est parti de quelle manière? Surtout sur la forme de ce carnet de la Lande.
C'est un peu une longue histoire, donc ça rejoint le concept de saga familiale, hein, dont on a parlé. En fait, le journal intime qui est le corps du roman est celui de l'arrière-grand-père de l'héroïne de mon premier roman. Et donc c'est un homme qui est né en 1988, qui est un jeune de maintenant, hein, on dirait, qui devient grand reporter et qui commence à écrire son journal en 2002, donc il a 14 ans. Et il écrira son journal jusqu'à la fin de son existence en 2078, quand il aura 90 ans. Et le déclic, c'est de dire que le premier roman nous avait projeté directement en 2080, et j'avais envie de raconter finalement, de faire le lien avec aujourd'hui, de raconter ce qui s'était passé entre maintenant et 2080, de façon assez logique, assez linéaire, et de façon à ce qu'on voit comment une évolution douce, tranquille, peut conduire à des états qu'on n'imagine même pas aujourd'hui.
Alors c'est un véritable exercice prospectif de la pensée qui propose l'histoire du XXIe siècle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur pour exposer un certain nombre de problématiques dans leur globalité? Parce que quelque part, quand on écrit un ouvrage de ce type-là, je suppose que vous aviez une volonté de témoigner sur les grands enjeux.
Oui, absolument. On peut le voir comme un message d'alerte, finalement. J'ai essayé de rester assez pédagogue, de manipuler des concepts assez simples et de faire le lien entre les signaux faibles qu'on a commencé à percevoir à la fin du XXe siècle, début du XXIe, et puis les signaux de moins en moins faibles, qui commencent à nous impacter, qui concernent le climat, l'énergie, nos modes de vie, nos ressources, l'eau douce aussi.
Voilà. Et quel est selon vous le risque majeur, le plus important?
Alors, moi, mon sentiment, c'est que le driver de ce qui va conditionner l'avenir de notre humanité, ça reste quand même cette histoire de climat, parce que nous vivons dans une atmosphère qui a été stable pendant des milliers d'années, hein, depuis la dernière glaciation, et là qui commence à dériver de façon rapide, et de façon anthropique, hein, c'est généré par l'homme. Et donc, on peut arriver rapidement à une catastrophe, un mode divergent, disons, de tout ce qui peut se passer dans l'atmosphère. Alors, dans le livre, je parle souvent de la minceur de notre atmosphère. L'atmosphère fait à peu près 5000 mètres, hein, du moins la partie vivable fait 5000 mètres, ce qui représente à peine un millième du diamètre de la planète. Donc, c'est comme si c'était une feuille de papier posée sur une orange. Et c'est très fragile. Et là, on est en train de jouer avec en modifiant sa composition chimique.
Alors, il y a, notamment par rapport aux nombreux rapports produits par le GIEC depuis de nombreuses années, on a l'impression qu'il y a toujours le même discours, qui est un discours très stable, qui montre et qui démontre les mêmes choses, et que on a montré et démontré la crédibilité ou l'acceptation des constats qui sont faits ne sont pas pris en compte. Vous mettez ça sur comment vous l'expliquez?
C'est un constat, l'expliquer c'est compliqué. Bon, on peut l'expliquer d'une façon un peu simple en disant que l'horizon de nos hommes politiques, hein, qui sont leurs prochaines élections, qui sont de l'ordre de 5 ou 10 ans, est pas du tout l'horizon du changement climatique qui lui s'organise ou se prépare sur plusieurs décennies. Donc ils sont assez facilement dans le déni. Et puis, annoncer une catastrophe n'est jamais très porteur, hein, au niveau électoral. Donc tous les politiques et les hommes de pouvoir ou les femmes de pouvoir ont plutôt intérêt à minimiser le problème qu'à l'aggraver, avec le risque de ne pas être élu la prochaine fois. C'est ce qui était arrivé un peu à Jimmy Carter dans les années 70. Il avait mis en garde, hein, les Américains en disant attention. La surconsommation, les énergies fossiles, etc. Il va falloir en sortir parce que c'est très dangereux. Bon, alors, les lobbies ont eu vite fait de faire en sorte que ce soit Ronald Reagan qui soit élu à sa place et que Jimmy Carter ne soit pas réélu.
Alors, il y a peut-être d'autres aspects qui font que l'acceptation n'est pas si évidente. Vous faites allusion à la remise en cause du mode de vie occidental et une de ses déclinaisons, une remise en cause des transports motorisés de masse. Est-ce que ces deux points-là sont justement des points qui seraient susceptibles d'effrayer la population et qui donc ne sont pas pris en compte?
Oui, évidemment, hein, on est dans une société qui repose beaucoup sur les transports, que ce soit au quotidien ou pour nos loisirs, pour nos échanges commerciaux. Et ce mode de vie est un des vecteurs de dérèglement climatique. Donc, y renoncer, c'est très compliqué. Et on imagine bien que ce n'est pas très porteur d'annoncer aux gens, comme le fait par exemple Jean-Marc Jancovici, hein, que ben, un long voyage intercontinental tous les 5 ans, ce serait suffisant largement, et qu'il faudrait essayer de ne pas faire plus, et qu'il faut essayer de minimiser les trajets courts, donc les trajets travail-domicile, qui peut signifier une refonte complète de l'urbanisme, par exemple.
Alors, effectivement, en vous écoutant, effectivement, on peut prendre la mesure des choses qu'il faudrait faire, des choses qui paraissent un petit peu logiques, mais on ne le fait pas. Et donc, je précise aux auditeurs que dans le livre, vous décrivez ce qui arrive parce qu'on n'a pas fait les choses et que quelque part, c'est un petit peu glaçant, mais on y reviendra dans le détail. Je voudrais savoir ce que vous répondez aux personnes qui disent, mais attention, les cycles de température depuis que la Terre existe, depuis le début de l'humanité, ont été des grands cycles. Il y a eu des périodes de chaud, il y a des périodes de froid. Il faut pas comparer, il faut comparer ce qui est comparable et que peut-être on n'est pas dans un cycle qui va être un cycle si qui va être si déterminant.
Oui, il y a toujours eu des cycles, effectivement, mais quand on regarde un peu les courbes, hein, ce sont des cycles très lents. Bon, la dernière glaciation remonte à 20 000 ans. Le climat est resté stable depuis à peu près 10 000 ans. Et là, il recommence à se dérégler, mais de face à un rythme qui n'est pas du tout celui des cycles naturels. Et je crois que l'effet anthropique, hein, donc l'effet de l'action de l'homme, est maintenant complètement admis. Et c'est clair qu'on n'est pas du tout dans les mêmes constantes de temps.
D'accord. Alors, je voudrais que pour nos auditeurs, je demande toujours cet exercice parce que c'est intéressant, que vous puissiez décrire rapidement la couverture de votre ouvrage, la couverture du journal d'un enfant du siècle.
Alors, la couverture, elle est très simple, hein. C'est un dessin que j'ai fait moi-même d'ailleurs, et qui représente un journal intime avec quelques écritures. Alors quand on regarde de près, on voit que la page qui est ouverte sur la couverture est celle du 14 janvier 2074. Donc on est un peu à la fin de la vie de l'auteur, hein, puisqu'il décédera en 2078. Et les quelques mots qu'on arrive à lire, c'est « Surprise, surprise, il neige ce matin. La dernière chute de neige remonte à 2044. Ma chère petite fille avait 4 ans. »
Voilà.
Donc, on voit, ça situe un peu le problème très, très globalement, hein. Et la région où le personnage habite, c'est en Allemagne, dans la vallée du Rhin, donc en Europe.
Vous avez donc donné un titre qui est Journal d'un enfant du siècle. En le lisant, vous me direz si vous êtes d'accord, j'ai eu des impressions de un peu de Jules Verne, un petit peu de Indiana Jones. Dans la nature et dans la personnalité du reporter.
Oui, c'est flatteur, merci. Effectivement, le reporter, alors c'est pas une autobiographie, bien sûr, mais le reporter, j'ai essayé de lui donner des caractères un peu rebelles, un peu en dehors de son temps, un peu observateur. D'ailleurs, il a des déboires politiques, hein, on le voit au cours du roman, il est obligé de quitter son pays parce qu'il a un regard finalement assez accusateur sur son époque, assez rebelle.
Et on va le voir dans le détail, effectivement, c'est quelqu'un qui est rebelle et c'est quelqu'un aussi qui a un fort souci de transmettre aux générations futures, peut-être parce qu'il mesure les dégâts qui ont été causés ou qui n'ont pas été empêchés par les générations qui ont précédé.
Oui, ça c'est un peu une préoccupation que j'ai, entre guillemets. C'est-à-dire que tous nos problèmes climatiques, nos problèmes de ressources qui peuvent déboucher sur des problèmes d'alimentation, hein, de choses très vitales finalement, risquent d'entraîner une perte des connaissances. Parce que quand vous avez besoin de trouver votre nourriture pour le lendemain ou de vivre au jour le jour, bah, vous n'allez pas à l'université, donc vous ne recevez pas la transmission des sciences qui sont de plus en plus complexes de la part de vos aînés. Donc on peut être confronté dans l'avenir à une perte de savoir, même sur des choses qui nous paraissent très naturelles aujourd'hui, hein. Fabriquer un téléphone portable, c'est pas si simple que ça. Ça nécessite des quelques générations d'ingénieurs, plusieurs dizaines d'années de découvertes, de recherches. Et si pour des raisons conjoncturelles, on arrête ce genre d'activité, on peut très bien se retrouver dans une société détechnologisée.
Xavier Bardet, je vous propose maintenant de rentrer dans un monde merveilleux, l'espace d'un instant.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Un message d'espérance profondément humaniste derrière son apparente simplicité. Au milieu des conflits et des violences du monde, il existe encore une beauté fondamentale dans la vie quotidienne. Réapprendre à voir la beauté du monde, un appel à la fraternité. What a Wonderful World de Louis Armstrong. Xavier.
Ouais, j'aime bien cette chanson, effectivement, elle nous rappelle combien le monde qui nous entoure est merveilleux et quelle chance nous avons d'être sur cette planète unique, alors qu'il n'y a aucune planète B à l'horizon.
Donc un message fort qui inciterait à non seulement à profiter des choses, mais surtout à les faire durer.
Absolument.
Je rappelle que nous sommes en compagnie de Xavier Bardet pour son roman « Journal d'un enfant du siècle » paru en 2025 aux éditions Le Lys Bleu. Alors Xavier Bardet, je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur la construction de votre roman, sa structure. Parce que j'ai trouvé que c'était un modèle du genre, un petit bijou. Et là, j'ai compris sans hésitation qu'effectivement... vous aviez des bases scientifiques très fortes parce que vous avez construit. Alors c'est pas une critique, hein, c'est un peu le roman de l'ingénieur, c'est-à-dire le roman qui est structuré dans lequel on est pratiquement certain qu'il n'y aura pas d'incohérence, et donc c'est quelque chose qui a dû vous prendre beaucoup de temps. Et vous dites notamment dans la préface que ce que vous avez utilisé, c'est la méthodologie de l'extrapolation de la trajectoire. Alors comment vous êtes débrouillé pour effectivement retenir un certain nombre de phénomènes et les extrapoler comme et les choisir surtout comme étant ceux qui le plus plausiblement devaient être retenus?
Alors, vaste question, plusieurs questions dans cette question. Alors, effectivement, ce que j'ai retenu pour essayer de prévoir ce futur en extrapolant de par le passé, à partir du passé, alors, il y a plusieurs fils rouges. Il y a celui de la concentration en CO2, donc du climat, hein, grosso modo, du dérèglement climatique. Il y a un petit peu également celui de la démographie, hein, parce que le problème terrestre... Enfin, le problème de l'humanité, qui est parfois un peu tabou, hein, c'est aussi la démographie, parce que notre consommation, donc notre pillage des ressources, entre guillemets, est le facteur de à la fois notre mode de vie, mais aussi notre démographie. Donc on peut jouer sur le mode de vie, bien sûr, on peut aussi jouer sur la démographie. Donc à partir de tout ça, j'ai essayé d'extrapoler les données du début du 21e siècle. Donc en termes de CO2, moi, quand je suis né, donc dans les années 60, on était à peu près à 300 ppm, hein, comme on dit, parties oui. par million de CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on est rendu à 425 à peu près, bon, ce qui fait une augmentation significative. Hein. On parlait tout à l'heure des cycles naturels, c'est largement au-delà de ce qui s'est passé dans les aires géologiques de façon naturelle. Et puis, on extrapole. Et moi, j'ai prévu un pic de CO2 parce qu'un jour, ça devra s'arrêter ou alors l'humanité aura disparu. Dans les années 2070 à 575, je crois, dans le roman, PPM, bon, ce qui conduit à des niveaux de température et de dérèglement climatique assez forts. Voilà, donc j'essaye de montrer comment l'humanité va gérer ce problème et comment elle peut éventuellement trouver des solutions, puisqu'à la fin, le modèle de société proposé par le personnage principal, qui est passé de journaliste à politicien, ce modèle semble viable et va peut-être sauver l'humanité.
Alors, dans l'analyse sur laquelle vous vous reposez, vous partez du principe en disant qu'il y a, par rapport à la planète, par rapport à l'humanité, un piège mortel. Et que ce piège mortel a trois têtes et tricéphales. Il y a le capitalisme, les idéologies en général et les énergies fossiles. C'est donc ce cocktail-là qui est un cocktail, menaçant pour l'humanité.
Oui, c'est ma vision des choses, hein. Alors, si on commence par les énergies fossiles, on est tombé, à mon avis, dans le piège complet de ces énergies, hein, qui sont à la fois hyper concentrées, qui nous ont permis, hein, d'inventer des machines fabuleuses, mais qui ont un impact sur notre atmosphère. Ensuite, on a parlé. Alors, l'autre sujet, c'est les idéologies, effectivement. On voit que les idéologies nous enferment dans des postures et des positions qui conduisent, ben, au conflit, hein. Il y en a de multiples exemples. Et puis le troisième volet que vous évoquiez, donc notre mode de vie, le capitalisme, ben, c'est cette tendance qu'a l'homme et que n'ont pas les animaux à vouloir accumuler des ressources, accumuler des biens, au-delà de ce qui est nécessaire. Et ça, c'est une caractéristique qui est très humaine comparée aux animaux.
Et donc, c'est en regardant de près ce cocktail mortel que y a une belle phrase qui est indiquée dans la préface pour essayer de qualifier votre ouvrage, qui dit qu'il s'agit de l'histoire éclairante d'un avenir sombre. Donc, il y a quand même, au vu des éléments que vous retenez, au vu des projections que vous faites, il y a quand même une forte inquiétude.
Il y a une inquiétude, mais il y a aussi une confiance en l'homme, hein, donc dans sa résilience et dans sa prise de conscience. Espérons qu'elle arrivera avant qu'il soit trop tard. Et vous parliez de la préface. Oui, j'ai eu la chance d'être préfacé par un de mes camarades d'école qui s'appelle Laurent Castagnède, qui est un expert en émissions de CO2, en transport de masse.
Alors, je voudrais que nous mettions un petit peu le zoom sur les fameux axes de projection que vous avez retenus pour que vous puissiez nous donner quelques exemples. Alors, en matière de climat et d'environnement, dans votre roman apparaissent les notions de ceinture de feu, de Mont Blanc sans neige, de canal de Panama hors service. Ce sont des éléments que vous avez choisis comme étant les plus plausibles et peut-être les plus représentatifs.
Oui, j'essaie de choisir des événements plausibles, certainement, hein, et qui marquent un peu les esprits. Or, vous parliez tout à l'heure du canal de Panama. Ben, le canal de Panama, il est alimenté par un lac d'altitude, enfin, de relative altitude, un peu comme le canal du Midi, hein, il est alimenté par une source terrestre. Il ne rejoint pas la mer comme ça tout seul. Et donc, si cette source d'eau douce se tarit, ben, il n'y a plus de canal, tout simplement. Je parle aussi, par exemple, de la première course à la voile qui relierait Hambourg au pôle Nord, aller-retour. Donc une régate qui passerait par le pôle Nord. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a plus de glace au pôle Nord. Et là, ça nous projette en juillet 2049 dans mon livre. Je parle aussi de, par exemple, l'évacuation de la Floride à cause de la montée des océans.
Et alors, vous évoquez effectivement un des grands problèmes majeurs qui vont se poser dans le siècle à venir, c'est le problème de l'eau.
Oui, l'eau est vraiment, bon, l'eau, c'est source de vie, hein. On peut vivre sans pétrole, on peut vivre sans électricité, à la limite, mais on ne peut pas vivre sans eau. Donc effectivement, l'eau risque d'être une des causes, si ce n'est la cause, des prochains grands conflits mondiaux. On le voit déjà, hein, l'eau est souvent, sous-tend souvent pas mal de conflits, hein.
Alors, vous analysez aussi des perspectives en matière de géopolitique. Quel est l'événement majeur que vous envisagez?
Alors, je crois qu'il y en a deux ou trois dans le roman, hein. Le premier, bah, c'est le conflit au Proche-Orient. Bon, quand j'ai écrit le roman, le conflit avait déjà commencé. Et là, je l'ai un petit peu extrapolé de manière assez brutale, donc dans la mesure où effectivement, ça va se terminer, ça peut se terminer par un conflit atomique entre l'Iran et Israël. Est-ce que les États-Unis vont intervenir? Est-ce qu'ils ne seront pas lassés de ce conflit interminable? Voilà, je pose la question.
Alors, dans les exemples que vous donnez, effectivement, celui d'un grand basculement qui aurait lieu en 2028 via une guerre nucléaire entre l'Iran et l'Irak, vous donnez un exemple qui n'est pas trop éloigné et dont un certain nombre de prémices sont déjà un petit peu en cours de développement. Et c'est ça, finalement, qui donne de l'intérêt à votre roman, parce qu'on se dit, mais finalement, et s'il avait raison?
Alors, soyons clairs, hein, j'espère me tromper, hein.
Oui,
Il n'y a
oui,
pas d'ambiguïté
oui.
à ce niveau-là. Par contre, quand j'ai écrit le roman, quand j'ai commencé l'écriture, donc vers 2021-22, on était encore loin de 2028. Ça se précipite un peu, est-ce que ça va se produire là ou pas, je ne sais pas. Par contre, l'idée, c'est de dire que, bah oui, pourquoi l'Iran ne développerait pas une bombe en cachette, en secret, sous la mer Caspienne, comme je le dis dans le roman. S'autoriserait une attaque surprise sur Israël qui répliquerait évidemment immédiatement, autodétruisant les deux nations, hein. Voilà, ce qui serait le début d'une nouvelle ère finalement.
Alors, dans le domaine démographique, vous pointez du doigt, exemple à l'appui, les conséquences du changement climatique sur l'immigration, en décrivant ce que vous appelez l'immigration climatique massive. Alors, au niveau de l'Europe, qu'est-ce qui se passe?
Alors effectivement, les changements climatiques vont peut-être pousser beaucoup plus de populations à se déplacer par force, hein, non pas par choix. On en a déjà pas mal d'exemples, mais ça risque de s'accélérer. Et au niveau de l'Europe, dans le roman, j'évoque la possibilité que certaines villes du sud de l'Europe, bon, je cite Naples par exemple, mais ça peut être aussi Séville, se barricadent, donc se font entourer de murailles, de murs de très haut pour empêcher les vagues de migration climatique venant du sud.
Ce qui vous amène à conclure que la question migratoire devient un fait structurel pour le siècle à venir.
Absolument.
Voilà. Alors, vous abordez d'autres sujets, et en particulier le sujet des sciences, de la santé, de la technologie. Et ce que vous décrivez, c'est une perte de compétences suite à des désorganisations, la fin des satellites, ce que vous appelez la détechnologisation. Vous pensez que rien n'est acquis et que tout ce qui a pu être engrangé en matière de connaissances est quelque chose finalement d'éphémère?
Que rien ne soit acquis, ça me semble une évidence. Si vous avez deux générations qui ne retournent pas à l'université, par exemple, d'affilée, même une génération, vous perdez énormément. En 40 ans, vous pouvez perdre énormément de savoir, de savoir-faire aussi, parce que le savoir est une chose, le savoir livresque est une chose, mais le savoir-faire, donc la technologie, en est une autre. Et la mise au point des technologies prend souvent tellement de temps et repose parfois sur des chances, hein, des événements aléatoires, qu'ils peuvent ne pas se reproduire. Et on peut très bien oublier la façon dont on a réalisé certaines prouesses techniques d'aujourd'hui.
Alors, de même au niveau économique et au niveau industriel, vous parlez de l'aéronautique et en connaissance de cause, puisque vous avez travaillé dans ce secteur, en la qualifiant de bulle industrielle et en qualifiant peut-être d'erreur ou d'impasse tous les projets qui avaient été fondés, notamment sur le mirage de l'hydrogène et des éco-carburants.
Oui, alors c'est un vaste sujet, hein, on pourrait en parler pendant des heures, mais effectivement, comme Jean-Marc Jancovici, moi je pense que l'aviation de masse telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec laquelle on peut aller au bout de la planète pour des sommes finalement assez minimes, hein, cette aviation de masse repose essentiellement sur le fait qu'on a du pétrole et du kérosène. Sans cette source d'énergie qui est hyper concentrée, qui peut être aussi d'ailleurs d'origine agricole, hein. Les avions ne volent pas, du moins ne voleraient pas en masse comme ils volent aujourd'hui. L'hydrogène aussi, moi je le vois un peu comme un mirage. Alors effectivement, un avion peut très bien voler avec l'hydrogène, Par contre, l'hydrogène ne se trouve pas dans la nature, donc il faut le fabriquer.
Alors
Alors
sur
que le pétrole se trouve dans la nature.
Et donc, et dans la prolongation de cette analyse, vous imaginez, enfin vous imaginez ou vous prédisez, vous essayez de prédire, entre guillemets, la fin du tourisme de masse, puisqu'effectivement, il n'y aura plus de moyens de transporter les personnes. Alors, tout concourt dans les axes de projection que vous avez choisis à démontrer qu'on est dans un monde fini, mais on n'arrête pas de consommer les ressources et de les épuiser.
Oui, ça aura fatalement une fin. Je veux dire, le pétrole aura fatalement une fin. On pourrait essayer de le remplacer par des hydrocarbures d'origine agricole, mais ce sera en concurrence avec l'alimentation. Donc effectivement, il y a des tas de ressources qui ne sont pas durables, comme on dit. Et même celles qui sont durables, on les consomme de façon trop rapide, ce qui fait qu'elles n'ont pas le temps de se renouveler. C'est le fameux concept du jour du dépassement.
Alors, je vous propose, Xavier, d'écouter maintenant une chanson du côté de San Francisco.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, psy. Attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera Tam à la guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
San Francisco de Maxime Le Forestier. Xavier, c'est un hymne à une certaine idée de la liberté, de la fraternité. La maison bleue, c'est une maison qu'il faut protéger, un moment, la mémoire d'un moment fragile qu'il faut conserver.
Oui, c'est un peu tout ça. Moi, j'aime bien cette chanson de Maxime Le Forestier parce que même si San Francisco s'effondre, on peut imaginer que certains continueront à rester heureux dans une forme de sobriété, mue par des désirs plus artistiques que des désirs de possession.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en compagnie de Xavier Bardet pour son roman Journal d'un enfant du siècle, paru en 2025 aux éditions Le Lys Bleu. Alors, nous avons vu, Xavier, les possibles conséquences à la fois, j'allais dire, des actions ou des non-actions d'aujourd'hui par rapport au dérèglement climatique. Maintenant, je vous propose que vous nous fassiez part des solutions d'adaptation que vous évoquez dans votre livre. Parce que dans votre livre, vous décrivez un monde qui est un monde différent, un monde qui a été secoué par des événements météo très durs, des sécheresses ravageuses, des luttes de groupes de terroristes, etc. Donc un monde qui a particulièrement évolué. Mais vous décrivez aussi un certain nombre de moyens qui ont été trouvés pour que les populations puissent s'adapter. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples ?
Oui, alors tous ces moyens, finalement, on peut les regrouper sous le terme un peu générique hein, qu'avait employé Pierre Rabhi, qui est la sobriété heureuse. J'ai le sentiment que tous nos soucis, alors, ils viennent de deux choses, en fait. Sans doute des idéologies, qu'elles soient religieuses ou politiques, qui enferment les individus dans une certaine conception du monde et qui les ferment par rapport à autrui, aux autres. Et puis, ça vient également de notre besoin de posséder, hein, du capitalisme, on peut le résumer comme ça, auquel il va falloir peut-être renoncer et réfléchir profondément.
Alors, cette notion de frugalité a quelque chose à voir avec une autre notion qu'on pourrait appeler, que vous qualifiez, vous, de neutralité vis-à-vis de la nature. Et pour l'expliciter, vous dites qu'il y a trois intervalles à prendre en compte dans la manière dont on exploite les ressources de la planète. C'est l'année terrestre, la durée de vie d'une génération et la durée de vie d'un arbre. Vous pourriez nous expliquer ?
Ouais, alors je vais essayer de résumer tout ça. Bon, le cycle fondamental de la planète, c'est l'année, hein, c'est-à-dire les saisons, le renouvellement des végétaux, les récoltes, etc. Donc l'année est un cycle absolument fondamental. Et on parlait tout à l'heure du jour du dépassement. On sait très bien qu'aujourd'hui, toutes ces ressources qui sont finalement annuelles, renouvelables sur l'année, on les a consommées au milieu de l'année, au mois de juillet. Au niveau global, on les a même consommés au mois d'avril, si on prend des gens qui ont un niveau de vie comme ceux des Français. Donc on voit bien qu'on vit à crédit. Donc il va falloir réadapter nos consommations et nos modes de vie pour revenir dans ce cycle annuel pour tout ce qui concerne les denrées durables, enfin les denrées qui se renouvellent sur l'année. Donc ça concerne bien sûr l'agriculture et également l'eau douce, puisque l'eau douce souvent suit un cycle qui est relativement annuel. Si on regarde les saisons. Donc ça, c'est l'unité de temps fondamentale de la planète, hein, c'est l'année. Et puis, on parlait de la durée de vie d'un arbre, donc c'est quasiment celle d'un homme, hein, finalement. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'une déforestation, un arbre ne repousse pas en une année. Donc lui, son cycle de vie, si on veut qu'il se renouvelle, c'est plutôt la durée de vie d'un homme ou 75 ans, ou... Donc ça aussi, c'est un cycle qu'il va falloir commencer à respecter, parce que l'arbre est quand même une chose fondamentale sur cette planète, dans la mesure où ça peut être un matériau de construction, où ça nous nourrit par les fruits, par tout un tas de choses, et où ça renouvelle notre atmosphère, puisque finalement, c'est le seul être qui est capable de purifier notre atmosphère de façon, je dirais, naturelle d'abord, et puis de façon massive.
Alors vous parlez, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, des grands problèmes migratoires qui vont se poser. Et vous évoquez dans le livre une action concrète que vous nommez acte de délégation sur les flux migratoires. Vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cet acte, cette loi sur les flux migratoires ?
Ouais, alors là, j'ai essayé de faire un peu de politique politicienne. Donc, j'imagine que certains pays puissent déléguer le contrôle de leurs frontières à des sociétés privées. Bon, on est un peu dans le Wagner, hein, finalement, hein, dans les milices privées. Et on peut imaginer que certaines villes soient privatisées et servent de rempart. Alors, je parlais de Naples tout à l'heure, par exemple, mais on peut parler de Séville aussi, toutes les villes du sud de l'Europe. Soit privatisées et servent de rempart aux flux migratoires. C'est-à-dire que les gens qui habiteraient là aurait une certaine liberté, hein, serait autonome, privatisé entre guillemets, mais aurait pour obligation de stopper les flux migratoires.
Et donc vous décrivez quelque part quelque chose qui peut nous paraître une mesure extrême, mais qui sera peut-être finalement obligatoire et imposée par les événements au cours du siècle.
Oui, suivant l'orientation que la société désire prendre, on peut arriver à ces extrêmes, bien sûr, oui.
Alors, un autre exemple des solutions d'adaptation, dans votre livre, vous mettez en avant un modèle de société que vous qualifiez le modèle de société désirable, low-tech, mais pas no-tech.
Ouais, ce que je veux dire par là, c'est que il n'est pas question de renoncer à tout ce que l'humanité a pu inventer, découvrir depuis des siècles, hein, ce qui est fabuleux, hein. La science de la matière, par exemple, nos connaissances, que ce soit en aérodynamique ou quoi que ce soit, c'est un savoir-faire, c'est un patrimoine, il faut absolument le conserver. Par contre, on peut dans son usage, et c'est bien là la question, on peut dans son usage le réserver à ce qui est vraiment vital ou utile. On parlait tout à l'heure de l'aviation. C'est certain qu'il n'y a qu'un hélicoptère qui peut aller vous sauver en montagne si vous êtes en difficulté. Par contre, prendre un hélicoptère pour aller simplement survoler les gratte-ciel de Manhattan ou le Colorado, là, on peut peut-être s'en passer. C'est un peu le message que j'essaye de faire passer. C'est-à-dire, il n'est pas question de revenir à l'âge de pierre, mais faisons un usage durable de toutes ces technologies.
Voilà. Et alors donc, on en revient à la conclusion déjà partiellement évoquée, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit de plus en plus de manière précise ce qu'il faudrait faire, et on voit aussi ce que nous ne nous faisons pas. Parce que quand, par exemple, vous parlez de l'utilisation des hélicoptères, effectivement, ça veut dire qu'il faut pouvoir établir une priorité dans les usages. Et
Absolument.
cette priorité dans les usages, à part la force des choses, pour l'instant, il y a beaucoup de points d'interrogation.
Oui, l'expérience montre qu'on ne réagit que sous la contrainte, hein. La loi, parfois, mais surtout la contrainte physique. Donc, tant qu'effectivement il y aura du pétrole, il y aura des gens qui auront envie d'exploiter, il y aura des gens qui auront envie d'en profiter. Arrêter la consommation de pétrole aujourd'hui est extrêmement compliqué dans la mesure où il n'y a pas de contraintes physiques.
Alors, est-ce que ça signifie que, sans hésiter, on est obligé de constater que dire tant qu'il y aura du pétrole, on ne va pas s'orienter vers des solutions d'adaptation dignes de ce nom?
On peut le craindre, j'ai pas de boule de cristal vraiment, mais on peut le craindre. Alors il y a le pétrole, mais il y a aussi le charbon. Les réserves de charbon sont immenses. Donc on peut imaginer une société qui continue à fonctionner au charbon pendant un ou deux siècles, ce qui peut nous conduire à la catastrophe.
Donc globalement, donc votre ouvrage peut semer un petit peu l'inquiétude, mais on voit que tout est construit, tout est plausible. Le principal message que vous voulez adresser aux auditeurs et aux lecteurs à travers ce livre, quel est-il?
C'est un message d'alerte, hein, disant attention, on joue avec le feu, on a une planète magnifique, la planète B, elle est totalement hors de portée, à condition qu'elle existe. Donc attention, c'est essentiellement un message d'alerte et dire, il y a peut-être moyen de vivre autrement.
Alors, je voudrais vous poser une dernière question, Xavier. Est-ce que vous avez un autre livre prévu dans un avenir prochain?
Pas à court terme, je commence à réfléchir sur d'autres sujets. La fiction me plaît beaucoup, donc je risque de m'orienter, de continuer sur les rails de la fiction. Mais je n'ai pas encore de projet très précis.
De la fiction engagée ou d'une fiction déconnectée de toutes les problématiques que vous avez déjà abordées dans vos précédents ouvrages?
J'aimerais essayer une fiction non engagée. Mais c'est difficile parce que le naturel revient au galop.
Eh oui. Voilà. Bien, donc je rappelle pour les auditeurs ce roman de Xavier Bardet, Le journal d'un enfant du siècle, édition Le Lys Bleu. Un roman de la lucidité, pourrait-on dire, de la lucidité inquiète, entre conscience du désastre et nécessité d'espérer pour continuer à agir, ou peut-être tout simplement pour commencer à agir, n'est-ce pas?
Oui, c'est l'idée, hein. L'idée, dire, il est sans doute pas trop tard. Restons confiants, mais sortons de la trajectoire.
Bien, Xavier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Parole d'auteur pour
Avec grand
votre.
plaisir, merci de m'avoir invité.
Et je rappelle à nos auditeurs que cette émission pourra être écoutée à nouveau sur toutes les grandes plateformes du moment, et ainsi que sur le site de Radio Présence.